En ligne directe, Nathalie Ducommun.
La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Un précepte qui nous mène de plus en plus vers l'interdiction généralisée, du moins lorsqu'il s'agit de la fumée. D'autres libertés de polluer, je vous rassure, restant intactes dans nos sociétés. Hier, une nouvelle initiative populaire a été lancée à Genève pour durcir la législation sur le tabac, interdire les fumoirs, interdire même de fumer dans les espaces ouverts, à l'extérieur donc, si, je cite, la protection de certaines catégorie de personnes l'exige, en l'occurrence les malades, les enfants et les personnes âgées. Cette initiative fédérale s'ajoute à celle de la Ligue pulmonaire qui sera soumise au peuple le 23 septembre prochain et qui veut étendre à tous les pays, à tous les cantons, pardon, la réglementation déjà en vigueur dans 8 d'entre eux. Faut-il tendre vers l'interdiction totale? Certains pays y songent, la Nouvelle-Zélande notamment, d'ici 2025. Obsession, liberticide ou saine revendication, on en débat ce matin dans ligne directe jusqu'à 8h30. Vous composez le 0800 23 33 33 pour passer à l'antenne. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS au 939 ELD suivi d'un espace et de votre texte. Bonjour Magali Philippe.
Bonjour Nathalie.
Chaque matin, vous nous proposez votre bande-son du jour. Aujourd'hui, un petit condensé de défenseurs de la cigarette. On écoute.
Mais ça va pas, non ?
Laissez-nous fumer !
Alors, une telle initiative, l'interdiction totale, me fait doucement rigoler. C'est un non-fumeur qui vous parle, mais franchement, je trouve la chasse aux fumeurs, si elle atteignait ce niveau-là, ridicule.
On n'est pas comme ça, nous. On respecte les autres. Si on veut s'intoxiquer, moi, j'emmerde pas celui qui est en train de boire son coude rouge à côté.
L'interdiction totale, un abus aberrant qui ne pourrait mener qu'aux excès qu'on a vu à l'époque de la prohibition aux États-Unis. Une folie qui ne correspond à rien, ni aux dégâts de santé que provoque le tabac, ni à ses dégâts sociaux. Une nouvelle aberration et une nouvelle restriction des droits et des usages des êtres humains.
Laissez-nous fumer !
Voilà, la bande-son des pro-fumeurs.
Des auditeurs, en effet, plutôt remontés. Pas tous fumeurs, hein, vous l'avez entendu, oui. Mais bien tous contre une interdiction totale de fumer et qui ont pris la liberté d'utiliser notre application mobile Ligne Directe pour se faire entendre sur ce sujet.
Hubert Varenier est en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur et président d'honneur du Cyprès Genève. Vous occupez évidemment de la prévention. Réaction immédiate à ce qu'on vient d'entendre. On voit bien l'enjeu. Est-ce que la santé publique doit primer sur la liberté des gens, des fumeurs en particulier?
Alors, la santé doit évidemment primer sur une certaine forme de liberté. Mais je vous dirais d'emblée que je trouve cette nouvelle initiative absolument excessive et en tout cas prématurée et inutile.
Pourquoi ?
Il existe actuellement une initiative qui a été lancée par la Ligue pulmonaire suisse. Vous l'avez dit, le peuple doit voter sur cette initiative en septembre. C'est absolument suffisant. Il faut d'abord laisser le peuple se prononcer en septembre et on verra ensuite s'il y a lieu de faire autre chose.
Donc il ne faut pas aller trop vite en la matière, c'est un petit
exact.
Peu ça que vous nous dites. Mais est-ce que dans la théorie, quand on sait les méfaits de la cigarette, est-ce qu'il n'y aurait pas une cohérence, une logique à simplement dire il faut viser l'interdiction totale, en théorie, avec le temps qu'il faudrait pour initier les citoyens, les accompagner dans cette direction? Est-ce que vous le souhaitez?
Écoutez, encore une fois, il s'agit d'une question de mesurer les moyens que l'on a pour lutter contre un fléau qui existe. Ça, je crois que tout le monde est d'accord maintenant d'accepter le fait que la fumée de cigarette est un toxique comme d'autres drogues et que malheureusement c'est encore une substance qui a une vie légale. Alors, je pense qu'il faut effectivement lutter contre le tabagisme, mais il faut le faire d'une manière mesurée et d'une manière qui ne soit pas excessive, parce que il faut se rendre compte et savoir que les fumeurs sont des gens qu'il ne faut pas brimer. C'est des gens qu'il faut aider. C'est des gens qui sont dépendants d'une substance qui met en danger leur santé. Il faut leur faire accepter ce fait et puis ensuite les aider à s'en sortir. Il ne s'agit pas de prendre des mesures qui frisent, si vous voulez, la guerre, un état de guerre contre une partie de la population. C'est ça qui me gêne dans cette nouvelle initiative.
Yvette nous appelle au 0800 23 33 33, puisque la ligne vous est ouverte pour faire valoir vos arguments. Bonjour Yvette.
Oui,
vous mettez en exergue une hypocrisie au fond. Soit on interdit la fabrication de la cigarette, soit elle est libre et on assume.
Exactement, parce que l'hypocrisie, elle continue. On ne veut pas interdire. Donc la cigarette n'a que des côtés négatifs. Elle est nuisible pour tout le monde. Du moins, c'est ce qu'on nous dit. Alors qu'on en interdise la fabrication. Mais voilà, on ne veut pas le faire. Elle rapporte tellement d'argent dans les caisses publiques. Donc on continue d'en fabriquer à tour de bras. Et qu'est-ce qu'on en fera si tout le monde arrête de fumer? Est-ce qu'on va inonder les populations fragiles du globe parce qu'elles ne seront pas fumées ici, donc il faudra bien les vendre quelque part? C'est ça mon problème. Voilà.
Alors restez avec nous Yvette, on vous remercie pour ces propos clairs. Vous mentionnez combien la cigarette rapporte. Valentin Petkantine est avec nous, bonjour.
Bonjour.
D'Aix-en-Provence, vous êtes économiste, vous êtes chercheur à l'Institut Molinari. Vous avez fait mener plusieurs recherches, vous avez notamment publié un article dans les Échos qui parle justement de cette question économique, le risque avec toutes ces interdictions qui se multiplient dans tous les pays. C'est bien sûr que l'offre légale de tabac devienne illégale et que le marché noir règne. Ce serait un danger, un risque pour vous.
Bah écoutez, effectivement, j'ai entendu tout à l'heure Monsieur Varonnier, il y avait pas mal de bon sens dans ce qu'il disait, et en fait, cette interdiction du tabac, pure et simple, n'est pas uniquement en théorie, c'est ce qu'on voit déjà, on voit des personnalités comme Jacques Attali, par exemple en France, il y a un livre qui vient de sortir dont le titre parle expressément de l'interdiction du tabac, donc on voit comment le débat, grâce à des initiatives comme celle que vous avez en ce moment en Suisse, comment la réglementation et le débat a changé et petit à petit on s'oriente vers une interdiction pure et simple du tabac et de la vente du tabac. Il faut savoir qu'il y a des pays où on multiplie des réglementations comme l'obligation de vendre sous le comptoir, il y a le paquet neuf qui est sorti en Australie. Bref, on vise, il y a tout un arsenal réglementaire qui vise à dénormaliser le marché légal du tabac. Et malheureusement, une telle interdiction, une telle néo-prohibition pourrait avoir des effets pervers non seulement pour la santé, mais aussi d'un point de vue économique.
Effets pervers pour la santé, pourquoi ?
Eh bien, ces effets pour la santé, c'est pour la raison pure et simple, c'est que la néo-prohibition ne fera pas disparaître la consommation. Et ça, c'est un point qu'on oublie très souvent. L'exemple de la prohibition de l'alcool aux États-Unis a été mentionné. Il faut savoir que ça a été un désastre. Et la consommation d'alcool, non seulement n'a pas baissé, n'a pas disparu, mais elle a été multipliée par 5 entre le début de la prohibition et la fin de la prohibition. Il y a une néo-prohibition du tabac, la consommation de tabac ne va pas disparaître, elle va tout simplement changer. Au lieu d'acheter des cigarettes dans le circuit légal, les gens vont s'approvisionner sur le marché noir. Et sur le marché noir, les cigarettes, il y a des études qui ont été faites là-dessus, sont beaucoup plus nocives. Par exemple, il y a des métaux donc, qui sont contenus dans ces cigarettes, qui quand ils sont inhalés, sont très nocifs pour la santé. Donc des niveaux qui vont de 6,5 fois plus importants jusqu'à près de 14 fois plus importants.
Hubert Varonnier, vous voulez répondre juste sur ce point, les effets pervers pour la santé en cas d'interdiction, on n'a plus contrôle sur la qualité du produit vendu.
Écoutez, je ne peux que souscrire entièrement à ce qui vient d'être dit. Je pense que interdire en l'état actuel brutalement la fabrication et la vente des produits de tabac aurait des effets extrêmement pervers qu'on ne recherche absolument pas. Ce qu'il faut privilégier actuellement, c'est vraiment d'informer et de réinformer la population et surtout les jeunes sur les dangers de la consommation de tabac. C'est d'interdire la publicité et c'est de diminuer l'accessibilité du produit, en particulier au niveau du prix, pour voir jusqu'à quel niveau les gens vont continuer à acheter ce produit toxique et en fait utiliser une partie importante de leurs revenus pour mettre leur santé en danger.
Alors, de nombreux appels.
Si je peux ajouter quelque chose.
Je vous en prie.
Concernant le prix, parce que là, il s'agit d'une question qui, au fond, est économique et où un raisonnement économique est très utile. Il faut savoir qu'en France, par exemple, 80% du prix de détail, donc des cigarettes, s'en va en taxes et droits en toutes sortes. Or, avoir un prix qui est 80% plus élevé que ce qu'il devrait être sur un marché normal, c'est comme garantir une marge bénéficiaire, une marge commerciale à tous les trafiquants et à toute la contrebande de cigarettes.
Mais bien sûr.
C'est là-dedans qu'il s'engouffre et c'est ça qui fait que vous avez aujourd'hui un marché extrêmement dynamique, donc un marché illicite de cigarettes qui représente à peu près 11% du marché mondial. C'est estimé à 600 milliards de cigarettes par an.
Oui, c'est déjà un marché tout à fait dynamique. Restez avec nous. Le débat a été soumis aux internautes et on va en prendre la mesure avec vous, Magali Philippe. Sur les réseaux sociaux, que pense-t-on de cette interdiction?
Un premier constat, tout d'abord, c'est toujours tendu sur le front de la fumée en Suisse romande. Petite passe d'armes hier sur Twitter entre ceux qui se plaignent des désagréments de la fumée passive, comme ce témoignage. À midi aujourd'hui, sur une terrasse pour manger avec des fumeurs autour, irrespirable. Ce coup de gueule, ne pas fumer lorsque d'autres mangent relève du respect le plus élémentaire. Petite passe d'armes donc avec ceux qui, pour qui de telles réflexions sont tout simplement de l'exagération et de l'intolérance. Donc on a bien pu sentir hier sur les réseaux sociaux qu'à l'heure des beaux jours et des terrasses, la cohabitation entre fumeurs et non-fumeurs pouvait être encore difficile.
Je mentionnais l'exemple de la Nouvelle-Zélande qui songe d'ici 2025 à ne plus avoir de fumeurs sur son territoire. Des adeptes sur les réseaux de l'interdiction totale?
Alors non. Sur les réseaux sociaux, une écrasante majorité refuse cette idée. D'autres arguments que ceux énoncés dans notre bande-son contre une interdiction totale ont été énoncés. Ainsi, selon Curiosat, interdire, c'est le meilleur moyen de pousser les jeunes à transgresser. Ça, on l'a pas encore entendu. Et pour Valérie sur Facebook, les interdictions complètes lui font penser aux légalistes, aux extrémistes religieux. La modération et le respect des non-fumeurs peut tout à fait se vivre différemment. Et cette remarque qui vient de nous arriver sur Twitter par Kobe8, club vaudois fumé interdit, boîte de nuit tessinoise fumée autorisée. Pourquoi ne pas déjà uniformiser la pratique dans toute la Suisse.
Alors ça, c'est ce qui est soumis au peuple 23 septembre prochain. Vous allez justement vous prononcer là-dessus, décider si d'une harmonisation de la loi anti-tabac. Françoise est en ligne avec nous, bonjour. Il faudrait peut-être interdire la fabrication de cigarettes, aller jusqu'au bout du raisonnement. Françoise, c'est un peu ce que vous pensez?
Oui, moi c'est ce que je pense, seulement évidemment c'est pas une question nationale, c'est une question internationale. Parce que tant qu'il y aura des fabriques quelque part, effectivement, ça sera comme au temps de la prohibition, les gens se procureront des cigarettes ailleurs. Mais pourquoi il n'y aurait pas un consensus mondial à finalement se dire c'est une belle saloperie, on n'en a pas besoin, bon ben ça fera peut-être des emplois perdus, mais est-ce qu'on peut pas les recycler ailleurs? Moi je trouve qu'il y a une hypocrisie totale à laisser toujours ces fabriques de cigarettes, soi-disant qui sont bénéficiaires, si je pense au canton de Neuchâtel avec l'apport de Philippe Maurice, mais faut savoir ce qu'on veut. Comme je disais tout à l'heure à votre téléphoniste, on a bien réussi à régler le problème de l'amiante en ne mettant plus d'amiante dans les termites et puis finalement on a trouvé un autre produit.
Non, mais les gens n'étaient pas addictés à l'amiante.
Non, mais disons c'était pas par choix, c'était même encore pire. Parce que professionnellement il n'y avait pas le choix.
L'amiante, là il s'agit d'un bien de consommation privé. Je dirais chacun décide s'il veut fumer ou pas. Et à vrai dire, la seule solution viable, et en ce sens j'abonde à ce que a dit Monsieur Varonnier, c'est que les gens de leur propre initiative, de leur propre chef, décident de changer de mode de vie et d'arrêter de fumer.
Mais peut-être que ça épuisera. Viable. C'est le consommateur qui, de lui-même, s'il arrête de consommer, épuisera le marché, tout simplement.
Exact. Qui va disparaître s'il décide absolument. C'est la seule solution viable à mettre fin à l'existence du tabac.
Claudine nous appelle également de Morges. Vous trouvez qu'on va beaucoup trop loin avec les interdictions de fumer?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, je dois dire que j'étais parmi les premières à vouloir interdire la fumée dans les restaurants, dans le canton de Vaud. Mais alors là, ça va trop loin, alors je dois dire. Et j'ai l'impression qu'on nous occupe avec un faux problème. Si vous interdisez la fumée, qui est certes mauvaise pour ceux maintenant qui fument, pourquoi ne pas interdire la voiture? Maintenant, c'est prouvé que c'est mauvais. Pourquoi ne pas interdire l'électrosmog? Pourquoi ne pas interdire d'autres choses qui peuvent déranger les autres. Et là, on met la main dans un engrenage avec cette interdiction. Et je partage totalement beaucoup de d'avis précédents sur cette interdiction.
Donc, Claudine, cette nouvelle initiative qui a été lancée hier, qui demande à ce qu'on interdise de fumer dans certains espaces ouverts, par exemple autour des hôpitaux, autour des écoles, vous trouvez que ça va trop loin ?
Alors, ça, autour des écoles, probablement. Ça, je pense que c'est bien autour, mais ça dépend dans quel rayon. Si c'est dans la cour d'une école, on doit l'interdire. Ça, c'est une évidence. S'il y a une maman très fumeuse et qui attend son enfant et qui fume à l'extérieur, je me dis, franchement, pourquoi pas ? Allons-y tranquillement. Je crois que Monsieur de la Cyprette l'a bien dit. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que les gens soient informés, il faut que les gens réapprennent à être corrects vis-à-vis de ceux qui mangent à côté d'eux. Moi, si je suis sur une terrasse, je me mets le plus loin possible ou pas dans le vent de ceux qui fument. Et puis, ça viendra petit à petit par l'information. Ça viendra tout seul. Mais on ne doit pas continuellement être trop excessif dans les interdictions. Voilà.
Magali Philippe.
C'est Pascal Magnena qui nous fait cette remarque. Pas sûr, dit-il, que la dichotomie espace public-privé soit pertinente. Qu'en est-il des parents fumant dans des voitures avec enfants ?
Ouh, ça c'est terrible. Alors ça doit être interdit totalement. Enfin, on ne peut pas le contrôler, mais je trouve criminel de la part des parents.
Ça c'est votre avis, Claudine. Oui. Hubert Varenier, qu'en est-il au niveau... Bon, c'est pas interdit, je crois pas que c'est... Est-ce que c'est interdit de fumer au volant ? Ça, je ne le sais pas. Je vous pose la question, Hubert Varenier.
Écoutez, concernant le code de la route, je ne sais pas. Mais c'est clair que au niveau de la sphère familiale, que ce soit dans une voiture ou bien au domicile, c'est la responsabilité des parents, de la famille. Il n'y a rien à légiférer, là. Il faut informer, il faut convaincre. Et puis là, c'est une liberté qu'il faut laisser aux parents. Et les parents doivent être conscients de ce qu'ils font avec leurs enfants. Et je pense que ça suffit. Et je pense qu'un parent qui suffisamment a le souci de la santé de ses enfants, eh bien, il sait qu'il ne faut pas les exposer à un produit toxique. Alors, s'ils sont eux-mêmes fumeurs, eh bien, ils iront fumer à l'extérieur et éviteront de fumer à l'intérieur du logement. Ça, c'est clair.
Oui, donc on en revient à la responsabilité individuelle, hein, Hubert Varenier.
Oui, oui. Mais justement, à propos de cette responsabilité, je pense qu'il faut revenir un petit peu à ce qui se passe au niveau de l'initiative et rappeler que dans un pays démocratique comme le nôtre, n'importe quel groupe peut présenter une initiative. S'il obtient les signatures en nombre suffisant pour qu'elle soit soumise au peuple, eh bien, en fin de compte, c'est d'abord le peuple qui décide s'il leur donne ses signatures pour qu'elles soient présentées ensuite à l'ensemble de la communauté. Et en fin de compte, ce n'est pas l'autorité qui décide, quelconque autorité sanitaire ou exécutive ou législative, c'est le peuple lui-même qui décide. Il faut maintenant informer sérieusement le peuple et lui dire, écoutez, effectivement, cette initiative est excessive, il faut aller pas à pas et le faire. Et bien entendu, si on le voit, il y a 40-50 ans, la fumée passive, cette notion n'existait pas. Et d'autre part, la nocivité du tabac, on ne la prenait pas en compte, on n'avait pas les éléments scientifiques pour savoir à quel niveau elle était. Si vous regardez un film des années 40, 50, 60, tous les acteurs mâles surtout, mais aussi certaines dames, avaient la cigarette.
Oui, avaient la cigarette au bec. Valentin Petkanchin, j'aimerais vous faire réagir juste parce que vous êtes français et puis on entend Hubert Varenier nous parler de la volonté du peuple. Hein, c'est un système très suisse, c'est le peuple qui décidera. En même temps, dans les autres pays, on sait que l'interdiction est décrétée sur les lieux publics, mais les États sont quand même bien embarrassés. Ça leur rapporte énormément en termes de fiscalité, de taxes.
Ben écoutez, je pense que les États subissent la pression de plusieurs groupes et effectivement, je suis assez admiratif du processus politique suisse parce qu'on fait parler le bon sens, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Et en France, par exemple, les lois sont imposées et ce type d'interdiction sont, comme vous l'avez dit, décrétées. Et le problème, ce n'est pas dans une interdiction particulière, c'est que si on continue sur cette voie, eh ben, on risque de terminer, et comme je l'ai dit au début, c'est déjà dans le débat public, on risque de terminer avec la question, mais est-ce qu'il ne faut tout simplement pas interdire la vente du tabac ? c'est-à-dire non seulement de fumer, mais de vendre tout simplement des produits du tabac.
On va pénaliser l'offre légale.
Disais, ce type de néo-prohibition, ben, ça a été un désastre dans le passé et ça sera un désastre dans l'avenir.
Il ne faut pas le reproduire, vous nous le dites ce matin. Magali Philippe.
On parle du hashish aussi, du cannabis sur Twitter et sur Facebook. On tire ce parallèle avec le cannabis. Interdiction totale du tabac, alors qu'en Suisse, nous sommes à deux doigts de légaliser le cannabis. Jamais, estime Alej Pal. Et taxons le hash plutôt que de bannir le tabac. C'est ce que propose Cité sur Twitter.
Claude est en ligne avec nous de Payerne. L'interdiction, c'est pas votre tasse de thé. On va trop loin, Claude.
Oui, de toute façon, bonjour d'abord. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut interdire. On va bientôt interdire le papier de toilette, parce que ça prend des arbres dans la forêt, et puis ça bouche des canalisations. J'entends, il faut arrêter avec ces interdictions.
C'est une dérive de nos sociétés.
C'est une immense dérive. On ne sait plus quoi faire, puis on ne sait plus quoi dire. Et puis c'est du pain béni pour la radio, hein. Mais vous aussi, avec les ondes, vous êtes en train de polluer. Moi, je me demande si on ne veut pas interdire cette radio.
Voilà, ouais, interdisons la radio, Claude. Je vous remercie pour votre intervention.
On va vraiment mal. Puis qu'on écoute des hurluberlus comme ça, ça me fait de la peine, parce que au fond, le peuple, il va réagir. Puis c'est le peuple qui aura le dernier mot.
Qui aura le dernier mot, comme le veut notre système politique. Je vous remercie, Claude. Isabelle est en ligne avec nous. Vous êtes non-fumeuse. Et puis, votre témoignage est intéressant, parce que vous êtes dans un milieu hospitalier. On parlait de cette initiative qui a été déposée hier. Elle vise justement, par exemple, devant l'entrée d'un hôpital, de ne pas pouvoir fumer. Est-ce que c'est une bonne solution selon vous ?
Oui, alors c'est une question très très pointue, mais pour moi je trouve que c'est quasi cornélien cette histoire, et je défends la liberté individuelle bec et ongles. Donc c'est vraiment, ça demande des journées de discussion. Mais je parle juste du concret parce que j'ai peu de temps. Un exemple, je vis dans un appartement avec trois balcons et mes voisins, mes locataires en dessous sont très charmants et tout. Ce sont des gros fumeurs et ils ont un enfant très très jeune, un bébé pour pas dire, et ils protègent cet enfant et c'est tout à leur honneur. Alors ils fument sur les balcons et la fumée monte et je ne peux plus mettre mes plantes potagères, je ne peux plus utiliser mes balcons et ils sont charmants, j'allais dire.
Et du coup, voilà. qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes allé leur dire ? Comment vous réglez le problème ?
Oui, on a parlé et puis on s'est dit, est-ce qu'il y aurait peut-être la possibilité de, au lieu de fumer un peu sur toutes les terrasses, d'avoir un endroit comme ça. Je sais que ben voilà, là-bas je vais plus mettre mon duvet, je vais plus mettre mon persil et puis je vais fermer les fenêtres.
Donc vous êtes quand même prête à vous adapter un petit peu à cette liberté des fumeurs.
Ben, ça veut dire que ben voilà, il faut faire des concessions. Moi je suis tolérante, je suis pour le dialogue, voilà. Mais en même temps, et où je souffre vraiment, ça veut dire que c'est dans les gares, entre autres. Parce que j'ai pas de voiture, je me déplace beaucoup, beaucoup en train, et je comprends pas pourquoi on ne peut pas interdire l'enceinte des gares.
Oui, sur les quais de gare.
Il me semble que c'est, techniquement, ce serait possible. Parce que vous voyez, j'ai des petits-enfants, donc avec les poussettes et tout, je dois parfois me déplacer plusieurs fois en attendant le même train, parce que il y a un attroupement des enfants.
En sortant du train. Voilà, je vous remercie, Isabelle. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage.
C'est contre la fumée. Pour moi, c'est un poison. Point. Quoi.
D'accord. Merci, Isabelle. On va te clore ce débat avec le mot de la fin sur les réseaux sociaux.
On a évoqué cette possibilité d'augmenter les prix toujours plus des paquets de cigarettes. Eh bien, pour Michel François, sur Facebook, augmenter les prix, c'est criminel. Cela veut dire fumer. Oui, fumer les riches. Pas. Je ne fume pas.
Oui, on a mentionné ça, le prix du paquet comme sanction possible. On en revient en conclusion à ce débat. On pourrait parler de la responsabilité individuelle qui prime, mais dans votre bouche, Hubert Varenier, vous qui êtes cofondateur et président d'honneur du Cyprès Genève, vous êtes évidemment pour une interdiction tout à fait négociée et tolérante du tabac. Donc vous êtes contre cette nouvelle initiative qui a été lancée hier. Valentin Petkanchin était avec nous, économiste à l'Institut Molinari à Aix-en-Provence. On vous remercie tous les deux. C'est la fin de ce débat dans Ligne Directe. On vous souhaite une bonne journée. Jean-Marc Richard, bonjour. Chacun pour tous. Aujourd'hui, vous voulez faire quelque chose pour l'association Point d'eau.
Remarquable association qui est un espace d'hygiène, de soins et d'orientation sociale mis à disposition des personnes démunies, sans domicile fixe, mal logées, sans travail, marginaux, personnes âgées. Les plus démunies savent souvent ni où se doucher, ni où laver leur linge. Il existe donc un point d'eau et nous recherchons pour la section lausannoise des bénévoles, d'accord, d'offrir quelques heures par mois dans le secteur de l'accueil hygiène, douche et buanderie, quelques heures par mois. Et puis des bénévoles dentistes, podologues, coiffeuses, coiffeurs bénévoles, actifs ou retraités également, ainsi que des grands peignoirs. 058-236-1600. 058-236-1600. Merci d'avance.
Merci à vous Jean-Marc Richard et bonne journée. Vous écoutez La Première, il est 8h32 dans 20 secondes, le journal. Didier Duployé.
Au sommet du G20 à Los Cabos au Mexique, les Européens ont cherché à rassurer leurs partenaires. Ce sommet notamment consacré aux menaces que fait peser la crise de la dette européenne sur la croissance mondiale. Un sommet où juste avant son ouverture hier soir, Barack Obama et Vladimir Poutine se sont rencontrés. Tous deux ont appelé à un arrêt immédiat de la violence en Syrie. Ils se sont dit unis dans l'idée que le peuple syrien devait pouvoir choisir son avenir de façon indépendante et démocratique. Deux conseillers d'État, le vaudois François Martaler et le valaisan Jacques Méli, de même que des représentants des CFF et de la Confédération, ont signé hier à Vevey une déclaration pour moderniser la ligne ferroviaire du Simplon. La mise en service de voitures à deux étages est notamment prévue dès décembre 2012 entre Lausanne et Vevey, puis en 2018 jusqu'à Sierre et en 2020 à destination de Brigue. Et du côté italien, où la ligne est délabrée, des travaux vont aussi être entrepris, comme l'expliquait Philippe Gaudron, chef de la division CFF Infrastructure.
Nous sommes en contact régulier avec nos homologues italiens qui ont évidemment des difficultés financières. L'Italie n'est plus ce qu'elle était. Elle est là à faire face là, à des défis qui sont cruciaux. Mais on peut reconnaître que depuis le début de cette année, nos collègues italiens font un effort considérable pour remettre à niveau cette ligne. La voie ferrée sera pratiquement complètement refaite à l'automne. Il restera encore à refaire la caténaire et les installations de sécurité. Mais je crois que nos collègues italiens ont pris conscience de cela et malgré leurs difficultés, s'efforcent de la mettre à niveau.
Des propos recueillis par Pascal Bénard. En Valais, l'UDC a décidé de tendre la main au PLR. La proposition est inédite dans ce canton. L'UDC veut créer une alliance de droite lors des élections cantonales de mars prochain afin d'accéder au gouvernement. Jérôme Desmeules est le secrétaire de l'UDC du Valais romand.
Oui, c'est un moyen pour l'UDC d'entrer au gouvernement, bien sûr. L'UDC a une position qui est programmatiquement proche de celle du PLR sur de nombreux objets, en tout cas plus proche que ne le sont certaines des positions de la gauche, notamment sur les matières fiscales. Quand on voit les positions qui sont prises par le groupe de l'Alliance de gauche au Haut Conseil, qui désavoue systématiquement le gouvernement sur ces questions, eh bien l'UDC a l'impression que, et même c'est une forte impression, que nous pourrions apporter plus au gouvernement que les partis de gauche.
Et vous pensez que du côté du PLR, on va accepter cette alliance ?
Je pense qu'il y a des personnes qui seront intéressées par cette proposition, tout simplement parce que c'est pour une bonne frange, une bonne partie du PLR. Le PLR est un parti de droite et on préfère d'abord gouverner à droite. Le PLR a des primaires pour le Conseil d'État et que ce sujet ne manquera sûrement pas d'être abordé.
Des propos recueillis par Raphaël Grand du côté du PLR Valaisan. Justement, cette alliance semble avoir tout de même peu de chances d'aboutir. Le comité directeur du PLR Valaisan doit formellement se prononcer ce jeudi. L'Italie et l'Espagne qualifiées pour les quarts de finale de l'Euro, les Italiens ont battu les Irlandais 2-0 et les Espagnols se sont imposés face à la Croatie 1-0. Les Italiens qui ont souffert pour décrocher cette qualification, en tout cas, c'est l'avis de l'attaquant italien Antonio Cassano.
Les victoires offertes sont les plus belles.
Les victoires pour lesquelles il faut souffrir sont les plus belles. Mais la chose la plus importante était de passer dans ce groupe. Les Italiens ont l'habitude de souffrir et c'est dans ces situations que nous sommes les meilleurs. Je n'ai pas de préférence pour notre prochain adversaire. Le plus important, c'est d'être qualifié pour les quarts de finale. Nous verrons ensuite contre qui nous jouerons dimanche. Nous n'avons peur de personne. Il faut continuer notre marche en avant et tout donner contre notre prochain adversaire.
Et ce soir, la France affronte la Suède et l'Angleterre fera face à l'Ukraine. À suivre, bien sûr, dans nos rendez-vous d'information de la soirée et sur RTS2, coup d'envoi 20h45. La météo avec du soleil ce matin avant l'arrivée de nuages et de premières averses ou des orages prévus dès la mi-journée. Il fera de 27 à 30 degrés en pleine. Demain s'annonce très nuageux le matin avec des averses et des orages encore avant un passage à un temps assez ensoleillé l'après-midi.